Je voudrais maintenant partager avec vous quelques éléments de la théologie du corps de Jean-Paul II. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est 129 catéchèses données par le pape entre 79 et 84. Il a voulu. Donc, vous imaginez, vous arrivez, vous êtes élu. En gros, ce dont vous allez parler en premier, on ne sait jamais trop combien de temps on a quand on est pape. C'est un peu voilà ce qui est le plus important pour vous. Et donc Jean-Paul II, il a voulu consacrer les 5 premières années de son pontificat à parler de cette question du corps et de l'amour humain dans le plan de Dieu. Et en fait, on s'est même rendu compte après que les catéchèses, au départ, c'était un gros bouquin qu'il avait écrit. Il avait déjà ça tout prêt dans ses cartons. Voilà, il a juste coupé ça en catéchèses dans les audiences du mercredi pour partager ça à l'Église entière. Alors, puisqu'il serait trop long de tout développer, j'ai demandé aux panélistes de mettre dans votre dossier quelques citations et quelques éléments. Voilà, donc que je vous inviterai à consulter un peu plus tard. Vous aurez largement le temps. À l'interpellation des pharisiens sur la loi de Moïse qui autorise le divorce, le Christ dit, mais ça, c'est en raison de votre dureté de cœur que Moïse, il autorise le divorce. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et ce que fait Jean-Paul II, c'est qu'il suit le Christ au commencement. Il précise cet horizon de sens originel du corps, ce que le Christ veut dire quand il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Et donc il le fait à partir d'une lecture du livre de la Genèse qui, comme récit allégorique, vise à dire quelque chose sur la personne humaine dans le plan de Dieu. Je voudrais reprendre ici 4 idées. La première, c'est que le corps révèle la personne. Adam, confronté aux animaux qu'il doit nommer, constate qu'aucun des corps qui lui sont présentés, aucun des êtres qui lui sont présentés, n'est une personne. C'est-à-dire que, alors que nous avons en commun avec les animaux d'être corps, c'est précisément par le corps que nous découvrons que nous sommes des personnes et comme telles plus proches de Dieu que de l'animal. Adam, il fait cette expérience d'une solitude face à l'animal que Jean-Paul II appelle la solitude originelle. Et finalement, ça veut dire que le problème de la pornographie dans mon adolescence, c'est pas tant qu'elle montrait trop le corps, c'est qu'elle montrait pas assez la personne. Les corps de la pornographie ne sont littéralement personne. C'est-à-dire qu'ils sont anonymisés, ce sont que des objets. La deuxième idée, c'est que ce corps, précisément dans sa dimension sexuée, contient un appel à la communion. C'est l'unité originelle qui fait pousser ce cri à Adam quand il voit Ève. Waouh, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. C'est après ça qu'on a nommé donc ces fameux forums Wahoo, qu'on promeut pour faire connaître la théologie du corps. Jean-Paul II dit, si nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est moins par cette solitude originelle qui nous faisait prendre conscience qu'on était personne, que par notre capacité à la communion. Et communion qui est particulièrement figurée et vécue dans l'union sexuelle quand elle signifie le don total des personnes. La troisième idée, c'est qu'au commencement, la vision du corps de l'autre n'entraîne pas de désir d'appropriation. La Genèse dit, ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ils étaient nus et ils n'avaient pas honte? Face à une personne, dit Jean-Paul II, la personne est un tel bien que l'amour est la seule attitude appropriée à son égard. Autrement dit, le contraire d'aimer, c'est pas tellement haïr, c'est utiliser. C'est faire de l'autre un objet pour ma propre satisfaction. Voilà, et la quatrième idée qui découle des 3 premières, c'est cette vocation au don de soi qui est inscrite dans notre corps et que nous découvrons par ces expériences que j'ai citées. Jean-Paul II, il cite à plus de 100 reprises dans son pontificat un bout de Gaudium et Spes. Le chapitre 24, où il dit, l'homme seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. Donc à la fois l'homme est uniquement voulu pour lui-même, Dieu ne nous veut pas comme moyen pour autre chose, il nous a créés pour nous-mêmes, et en même temps, le fait qu'on est à son image fait qu'on est appelé au don de nous-mêmes. Notre corps, dit Jean-Paul II, a une signification sponsale du mot époux ou conjugal. Alors, mon témoignage vous a peut-être convaincu que l'expérience concrète qu'on en fait du corps est moins rose que ça. Et nous ne sommes pas, en fait, dans ce temps originel. Nous faisons, nous, l'expérience, en tant qu'homme historique, né chacun et après le péché originel, nous faisons l'expérience d'une sexualité blessée. Alors, entendons-nous bien, ça ne veut pas dire que la sexualité, le corps, sont subitement devenus impurs, tachés, entre guillemets, par le péché. Il ne s'agit pas de confondre la victime et le bourreau, comme on dit. C'est notre cœur qui est changé. La première chose qu'Adam et Ève font après le péché originel, c'est-à-dire après ce choix de dire à Dieu « Moi, je n'ai pas envie de vivre avec toi », ils se planquent. Ils se planquent de Dieu et ils se planquent d'eux-mêmes, l'un à l'autre. Tout se joue dans le regard. Le péché originel, quelque part, c'est dire à Dieu « Je n'accepte pas d'être créature, je ne crois pas que ton regard sur moi soit juste, je crois que tu m'as créé comme objet pour autre chose, pour toi, simplement comme objet de satisfaction pour toi. » Je crois que tu veux m'utiliser et donc je préfère vivre seul. Je préfère vivre à l'écart de toi que sous ton regard. Et cette blessure dans le cœur de l'homme, elle a des conséquences. Nous ne comprenons plus spontanément cette signification conjugale du corps, mais nous voyons uniquement sa ressemblance animale. Sans communion, le corps devient une menace. On entre dans un rapport de domination entre homme et femme, dont la femme est en général la première victime. Enfin, notre regard est falsifié, et on en vient même à accuser notre corps. Moi, c'est ce que je faisais à l'adolescence. C'est quoi ce truc qui m'attire vers le péché, alors que moi, je veux qu'un truc pur, sain, etc. Et finalement, la burqa ou le string, les tenues amples ou au contraire très provoques de vos adolescentes, ne disent que ça, en fait. C'est un cri qu'elle vous jette. Votre regard sur moi ou le regard que l'autre jette sur moi n'est pas juste. J'ai pas confiance dans ce regard-là. J'ai pas confiance dans mon propre regard sur mon corps. Voilà, c'est le regard, le cœur qui intéresse le Christ. On a lu ce matin cet extrait d'Évangile. Si votre l'œil est la lampe de votre corps, si votre cœur est pur, vous resplendirez. Et c'est le regard qui intéresse le Christ quand il, dans le sermon sur la montagne, quand il dit « Moïse vous a appris à ne pas être adultère, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire de cette manière a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » C'est-à-dire que le Christ, il ne s'intéresse pas simplement à une réforme pseudo-morale de nos comportements, à une répression de nos comportements. Il s'intéresse à ce que notre regard dit de notre cœur, de l'acte intérieur qui est le nôtre. Dieu, il ne veut pas la répression, il veut la rédemption pour nous. Et donc Jean-Paul II, il montre que ce n'est pas simplement d'une maîtrise de l'appétit concupiscible, d'une domination de l'affectivité par la volonté qu'il s'agit. Il s'agit de plus être l'homme de la concupiscence, l'homme de l'appropriation, où le mot concupiscence dépasse largement la question de la sexualité et désigne plus quelque chose que saint Jean désigne par la triple concupiscence. La concupiscence de la chair, c'est-à-dire l'expression complètement désordonnée et la recherche désordonnée du plaisir, le plaisir étant pas mauvais en soi. La concupiscence des yeux, c'est-à-dire l'avidité face au bien, face à la possession, et l'orgueil de la vie, la volonté d'être calife à la place du calife, de vivre sans Dieu et d'être son propre Dieu, sa propre source de soi-même. Voilà, donc c'est toute l'orientation de la personne qui est dans cette question. Est-ce que je serai l'homme de la concupiscence ou l'homme du don ? Et donc, on a vu jusque-là, en gros, que nos corps avaient une signification sponsale ou conjugale et que nous l'avons perdu de vue du fait du péché. Et le Christ, quand il vient, il ne se contente pas de nous la réexpliquer. Il l'accomplit devant nous, sur la croix, et ce faisant, il nous révèle cette signification conjugale de nos corps, et il nous révèle qu'elle n'est pas un simple signe, que nous ne faisons pas que mimer la Trinité, entre guillemets. Cette signification, elle préfigure notre finalité, c'est-à-dire que Dieu veut nous épouser. C'est le sens de l'affirmation de saint Paul aux Éphésiens au chapitre 5, quand il dit « Soyez soumis les uns aux autres, Marie, aimez vos femmes comme le Christ aime l'Église. Femmes, soyez soumis à vos maris comme l'Église au Christ. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'unira à sa femme et tous les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela en rapport au Christ et à l'Église. » L'amour du Christ et de l'Église pour l'Église et la réponse de l'Église au Christ doit devenir le modèle pour nous de notre amour humain. Réciproquement, notre amour humain nous révèle quelque chose de l'amour de Dieu et de la communion que nous vivrons à la résurrection. Comme je disais, cette rédemption, elle n'est pas réservée à la résurrection finale. Moi, je peux vous témoigner, je vous l'avais entendu, et je crois que nous devons affirmer que la résurrection, elle commence aujourd'hui. Dans la découverte, dans la redécouverte de la signification de notre corps, qui passe par des choses très concrètes, la purification de notre regard, la découverte du langage du corps, le développement de la vertu de chasteté. Tout cela, non pour réprimer continuellement nos désirs, mais pour reconquérir cette spontanéité orientée vers le don. Jean-Paul II dit qu'on est appelé à une spontanéité pleine et pure, pleine et mûre, pardon, des rapports qui naissent de l'attirance éternelle de la masculinité et de la féminité. Et que cette spontanéité, elle est le fruit graduel de la discernement des impulsions du cœur. Voilà, donc cette rédemption, elle exige notre coopération, elle exige qu'on travaille avec le Christ dans nos vies. Sur ce chemin, on fait forcément des faux pas, on se plante, on retombe, on... Voilà, c'est la vie chrétienne que vous connaissez bien. Mais ça vaut le coup à deux titres, pour nous-mêmes, parce que c'est le chemin vrai vers la joie, et pour les autres, parce qu'on a une responsabilité pour les autres. Jean-Paul II dit que l'homme et la femme sont réciproquement responsables l'un de l'autre de la dignité de l'autre. La dignité de l'homme et de la femme, dit-il, dépend sous toutes les latitudes et à toutes les époques de qui il sera pour lui et de qui elle sera. De qui il sera pour elle et de qui elle sera pour lui. Alors j'ai fait qu'ébaucher ici grossièrement la première partie de la théologie du corps. Je vois que finalement le plan n'a pas été trouvé, il était sur le bureau. Sur le bureau de l'ordinateur, c'est pas grave. Voilà, Jean-Paul II, il poursuit son discours sur le mariage et le célibat consacré en montrant que ces deux vocations s'éclairent l'une l'autre, sur la spiritualité conjugale, sur les questions de l'accueil de la vie, de la fécondité. Dans votre dossier, vous trouverez quelques citations qui concernent principalement ce dont j'ai parlé, les expériences originelles, l'impact du péché et la résurrection et la vocation que nous avons au don. Vous trouverez aussi une catéchèse complète pour un peu vous frotter au style de Jean-Paul II, voilà, qui est une manière d'écrire particulière. Et je voudrais, dans le temps qui nous reste, partager avec vous quelques pistes de réflexion pour faire grandir les jeunes dans l'amour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous préciser un point. La théologie du corps n'est pas le tout de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Ça peut vous sembler le nouveau truc à la mode. C'est un élément qui me semble crucial parce qu'elle donne ce que j'appelle l'horizon de sens par rapport au corps et à la sexualité. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire que la carte, qui est si précieuse pour un navigateur, elle lui est utile que s'il sait mener sa barque. Elle n'est pas inutile pour autant si vous ne savez pas mener votre barque. Parce que savoir que le nouveau monde existe, c'est quand même la meilleure motivation pour apprendre à naviguer, quoi. Et donc moi, j'ai commencé par voilà, cette découverte de waouh, il y a un truc beau à vivre, et que j'ai voulu donc trouver les moyens ensuite pour vivre ça. Mais il faut donner les deux. Pour commencer et pour partager avec vous quelques réflexions sur l'éducation affective, je vous propose la définition suivante. Éduquer, on pourra en discuter, hein. Éduquer, c'est accompagner une personne pour l'aider à développer un agir humain. C'est accompagner une personne pour l'aider à développer un agir humain. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, ça pose quelques questions. Qu'est-ce que c'est qu'accompagner? Qu'est-ce que c'est qu'une personne? Et qu'est-ce que c'est que cet agir humain vers lequel on veut amener cette personne? Commençons par le plus important, la personne humaine. Qu'est-ce que c'est qu'une personne? Quand vous parlez de sexualité, d'affectivité, de vie relationnelle avec vos ados, quelle vision de la personne, quelle anthropologie sous-tend vos propos? Alors dit comme ça peut ressembler à une question assez théorique, éloignée de vos préoccupations, mais elle est éminemment pratique. Parce que finalement, c'est la première question que je me posais en tant qu'ado, quand je disais, est-ce que je suis normal? Et en gros, est-ce que je suis une personne humaine pleinement développée dans toutes ses potentialités, quoi? Et peut-être le premier service que vous pouvez rendre à un ado, c'est l'aider à se connaître. Et comment le faire si vous ne savez pas, vous, ce que c'est qu'être un homme ou une femme, quoi? Notre société valorise à juste titre la singularité de chaque personne, mais on a aussi une nature humaine en commun, on a aussi quelque chose en commun, quoi. Et ceci particulièrement du fait de notre corporéité. Finalement, seuls les anges qui n'ont pas de corps sont chacun leur propre espèce et il y a autant d'espèces que d'anges. Mais nous, on est une seule espèce humaine et il y a quelque chose à dire sur cette nature humaine, sur ce qu'on a en commun, et notamment sur le corps. Il est aussi important d'avoir une représentation, il est important d'avoir une représentation aussi juste que possible, parce qu'elle sous-tend tout votre discours. Je lisais un jour le topo, l'autre jour, là, il n'y a pas longtemps, le topo d'une personne qui intervient en éducation affective, relationnelle et sexuelle. Et la représentation sous-jacente de la personne humaine, c'était un triptyque corps, cœur, esprit. Et en y réfléchissant, je trouvais que cette représentation, elle me posait vraiment problème pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que dans cette tripartition, la personne qui intervenait plaçait la volonté côté esprit. Et si vous voyez la volonté simplement comme un libre arbitre impassible, implacable, qui vise le contrôle de votre cœur, voilà, qui est dans votre esprit, qui vise le contrôle de votre cœur, eh bien, c'est la porte ouverte au volontarisme. La volonté, nous dit saint Thomas d'Aquin, c'est un appétit pour le bien. C'est une soif du bien. C'est pas un truc un organe de contrôle, quoi. Autre point qui me semblait problématique dans cette représentation, c'est que le cœur est séparé du corps. Et c'est méconnaître que les mouvements de mon affectivité sont profondément liés au corps. Quand je suis fatigué, je suis plus triste, et donc j'étais plus tenté à l'époque de me masturber. Les promoteurs des méthodes Vitose et compagnie ont bien compris ça, ce lien entre le corps et l'affectivité. Et puis, dans ce discours, la sexualité, du coup, était placée côté corps, quoi. Et séparée du cœur. Voilà, donc en fait, c'était une vision de la sexualité liée strictement à la fonction sexuelle biologique. Voilà. Et même si vous ne faites pas aux jeunes un schéma, entre guillemets, de ce qu'est l'homme, vos paroles, en fait, elles reflètent votre manière de penser le corps, de penser la personne. Alors, je propose dans votre dossier une représentation qui, comme toute représentation, est largement insuffisante, qui est empruntée à la philosophie réaliste, donc le mouvement issu d'Aristote, de saint Thomas d'Aquin, et qui me semble un peu plus féconde que celle que je viens d'évoquer, en sens qu'elle décrit les moteurs ou les puissances qui permettent notre agir et qui en même temps le conditionnent. Parmi ces puissances, je veux mentionner quelques-unes. La première, c'est l'affectivité, c'est-à-dire la dimension psycho-affective, les conditions psychologiques de notre agir. Il y a un mouvement d'église qui s'appelle Vivre et Aimer, alors, qui ne parle pas du tout de théologie du corps, puisque leur objectif, c'est d'être, je dirais, accessible, y compris à des non-catholiques. Mais ils ont compris cette importance de la vie émotionnelle. Et ils passent littéralement, mais toute leur journée, à apprendre aux couples à communiquer sur leurs émotions. À dire, je suis triste parce que, quand tu fais ça, ça me met en colère. Voilà, il me semble essentiel d'apprendre aux jeunes à reconnaître leurs émotions, à les nommer, et à notamment à nommer ces passions fondamentales que sont la joie, la peine, l'audace, la crainte, le désir, la fuite, la colère. Il me semble important également de comprendre qu'ils comprennent que l'affectivité a son dynamisme propre et qu'ils ne sont pas immédiatement responsables, coupables, entre guillemets, de leurs émotions, de leurs désirs. Il y a quelque temps dans l'hebdomadaire La Vie un petit dossier où les prêtres racontaient un peu les tendances actuelles de la confession. Et ils disaient, mais les gens confessent de plus en plus leurs tendances dont ils ont particulièrement honte parce qu'ils ont l'impression de ne pas tout contrôler, et de moins en moins leurs péchés, c'est-à-dire précisément leurs actes volontaires, ce qu'ils ont volontairement choisi. Après l'affectivité, je veux évoquer la sensualité. Il faut que les jeunes apprennent à connaître le dynamisme de leur sensualité. Vous savez, c'est ces jeunes qui viennent vous voir confondus de regret d'avoir couché ensemble et qui, quand vous leur demandez ce qui s'est passé, vous dites, ben voilà, on était seuls chez moi, dans ma chambre, et puis on a commencé à s'embrasser et puis à se caresser, et puis voilà. Et ces jeunes-là, en général, ils avaient réellement, mais complètement, 5 minutes avant, l'intention de ne pas coucher ensemble, quoi. Voilà, mais ils ne connaissaient pas leur sensualité, ils ne connaissaient pas ce moteur, ils ne savaient pas que la sensualité, la tendresse, sont des moteurs puissants qui préparent à l'acte sexuel et qui entraînent l'abandon de la volonté. Et cet abandon, il n'est pas problématique en soi, à condition d'en avoir conscience, quoi. Et de choisir en conscience les gestes qu'on souhaite poser. Et donc, finalement, ce jeune, il va s'accuser en confession, j'ai couché avec ma copine, etc. Mais c'est pas du tout de l'ordre du péché, il n'était absolument pas libre, il n'avait aucune idée du fonctionnement de comment il était foutu. La 13e puissance active du côté droit du schéma, c'est la volonté. Et donc, il faut souligner, comme le fait saint Thomas d'Aquin, et comme je l'ai dit avant, que la volonté, c'est un appétit du bien. La volonté, elle désire naturellement tout ce que l'intelligence lui propose comme étant un bien. Et cet appétit, il ne trouve vraiment de repos total, complet, de satiété, que dans la finalité de notre être, qui est ce face-à-face avec Dieu. Ce que je disais quand je disais que Dieu veut nous épouser. Cette contemplation de Dieu, ce n'est pas une pure passivité. C'est un acte. C'est le fait d'aimer, c'est l'acte d'amour. De sorte que la volonté, en fait, elle est comme un muscle, puisqu'il s'agit d'agir. Elle est comme un muscle qui se renforce lorsqu'on l'entraîne. Plus nous aimons, plus notre volonté se dispose à aimer. Elle développe ce que j'ai appelé avant des habitus, un habitus pour aimer. Les habitus bons en morale, on appelle ça les vertus. Plus nous choisissons le mal, plus notre volonté se dispose à faire le mal, facilement et naturellement. Et donc, ces habitus mauvais, c'est ce qu'on appelle vice. Que dire d'autre de cette volonté ? Si, la volonté, c'est le sanctuaire de la personne. C'est le siège de sa liberté que Dieu seul peut pénétrer dans ce siège de la liberté humaine qu'est la volonté. Même le diable, il ne peut pas s'en saisir. Il peut, il ne manque pas de suggérer à l'intelligence des biens qui est présente comme étant supérieure à la communion avec Dieu, pour nous détourner de Dieu. Mais il ne peut pas forcer la volonté. Et nous non plus, on ne peut pas forcer la volonté et on ne doit pas forcer la volonté. Ça a des conséquences sur l'acte éducatif. C'est-à-dire que nul n'acquiert de vertu malgré lui. Le jeune que vous accompagnez, il a un rôle à jouer dans sa propre éducation. Il collabore à sa propre éducation. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en aimant qu'on devient chrétien. Voilà, nous, on ne peut que présenter aux jeunes des biens et lui donner les moyens de muscler son cœur, entre guillemets, pour les choisir. Muscler sa volonté pour les choisir. Pour conclure sur la personne et quitte à visiter un lieu commun, voilà, je veux préciser que la personne, c'est plus qu'une association de ces puissances qui sont sur le schéma. C'est un mystère, c'est-à-dire que vous êtes des mystères ambulants. Je reprends cette phrase de Jean-Paul II que j'ai déjà citée. La personne est un bien tel que la seule attitude appropriée à son égard est l'amour. Donc, au pied de ce sanctuaire, voilà, on défait la courroie de ses sandales et on accueille le jeune particulièrement dans sa faiblesse, dans son manque de connaissance de soi, dans les blessures de son affectivité, dans sa difficulté à ordonner sa sensualité, dans ce désordre de la volonté qu'est le péché. Parce qu'in fine, le Christ, il veut tout sauver, il ne veut pas simplement le pardon des péchés. C'est pas juste la rédemption, c'est pas juste un quitus. C'est une profonde transformation de notre être, une profonde guérison. Qu'est-ce que c'est cet agir humain vers lequel on veut amener le jeune? Je voudrais ici distinguer le faire de l'agir. Le faire, ça concerne les actes extérieurs, les comportements. Et l'éducation, finalement, c'est le contraire du dressage. Quand vous dressez un animal, vous voulez juste qu'il fasse à peu près dans l'ordre les gestes que vous lui avez enseignés. L'éducation consiste à donner à la personne les conditions d'un agir libre. Parmi ces conditions, j'ai déjà parlé de la connaissance de soi, de son corps, de son affectivité, de sa sensualité. Je voudrais ici réinsister une seconde sur l'importance d'une juste formation morale. Enfin, faut pas avoir peur du mot. Mais si le mot fait peur, c'est qu'il y a beaucoup de contrefaçons de ce qu'est la morale. Il y a celle qui consiste principalement à voir la morale comme l'art d'éviter le mal. Donc la vie serait pleine de pièges que Dieu a parsemés. Voilà, et nous, il faut les éviter, quoi. Ça, c'est une contrefaçon de la morale. Dans la somme théologique, la réflexion sur la morale commence par notre finalité, elle va ensuite sur la vertu comme amour du bien, et à la fin simplement, et sur très peu d'espace, Thomas développe les vices et les péchés. Je discutais l'autre jour avec un prêtre qui me disait que quand on confessait, après que le pénitent ait exprimé un peu ses péchés, il l'invitait à méditer sur le bien qu'il pourrait faire, et pas sur le bien, l'idéal très loin, hein, sur le bien facile, accessible, que je peux choisir librement maintenant dans l'immédiat. Une cousine de cette contrefaçon, c'est la morale d'obligation. C'est si je fais le bien, c'est uniquement pour être dans les clous, pour respecter la loi. Et finalement, la loi, c'est un peu un arbitraire imposé par la toute-puissance de Dieu, et puis Dieu, il aurait pu décider que le bien, c'est autre chose. Non, le bien, il est en lui-même. C'est notre raison nous permet d'accéder au bien, de connaître le bien, et donc de le choisir librement. Ce n'est pas juste un code de la route arbitraire. Troisième contrefaçon, c'est celle qui consiste à dire que la morale, c'est appliquer des principes. C'est juste une faire œuvre de hypothético-déductif. Voilà, c'est juste un acte de l'intelligence d'appliquer des principes dans ma vie. Sauf qu'avec des principes, vous pouvez faire des choses gravement immorales. Dans l'expérience d'accompagnement que j'ai vu des couples, et notamment des hommes qui n'avaient pas forcément compris ce que ça voulait dire, ce que l'Église voulait dire quand elle parlait d'ouverture à la vie. Et ils en venaient quasiment à tuer leur épouse à force de grossesses répétées. Et ce faisant, à leur en vouloir, parce que vous comprenez, dans leur fragilité, leur pauvre épouse, Elle les empêchait d'atteindre l'idéal, la conformité au principe. Ils n'avaient jamais vu que peut-être que la santé de leur épouse était un vrai bien, qu'il s'agissait de prendre en compte dans la décision d'avoir un enfant ou pas. Et que cette décision, l'Église et Dieu leur confiaient cette responsabilité. Voilà, donc, à vous, éducateurs, il revient aussi de vous interroger sur votre propre formation morale parce qu'elle influence sur votre capacité à accueillir les jeunes. Et donc, d'aider les jeunes à grandir dans cet agir, pas simplement, mais aussi en exprimant la loi, mais en les aidant à grandir en prudence, en justice, en tempérance et en force. En 2 minutes, puisque je crois que c'est le temps qui me reste, c'est ça? Voilà, qu'est-ce qu'accompagner? Alors là, je pense que vous avez tous une expérience pastorale qui dépasse de loin la mienne, donc il s'agit pas de vous donner des leçons. Juste, voilà, c'est une question clé. Le terme, si vous regardez le rapport final du Synode sur la famille, il vient à 20 reprises dans ce rapport. Si vous faites un nuage de mots, comme c'est un peu le. Voilà, vous regardez les mots les plus cités, je pense que accompagner est en tête du rapport du Synode sur la famille. Notre tentation, elle peut être grande d'aller. Quand on vient notamment à une conférence comme aujourd'hui, à une colloque comme aujourd'hui, d'aller à la chasse au topo, à la formule packagée en 10 soirées, comme ça l'éducation affective sera faite, sujet traité, on passe à autre chose. Mais il viendrait personne à l'idée de dire que en 3 soirées, votre formation SPI, elle sera bouclée, quoi. Donc pourquoi est-ce qu'on pense que sur la question du corps, de l'affectivité, ce sera comme ça? Les topos sont utiles, ils parlent à la tête, à la partie cognitive, à l'intelligence, à ce qui est à gauche de mon schéma. Mais la partie droite, voilà, ça passe par l'action, par le fait de grandir, de s'entraîner, de comprendre sa sensualité, son affectivité, de former sa volonté. De même, je crois qu'il faut accepter, et quand on fait avec l'AFCP, donc où je me forme à l'accompagnement des personnes, des sessions, on accepte d'être un passage dans la vie d'un jeune, d'un couple, d'une personne, de ne pas maîtriser son parcours et de ne pas vouloir répondre à toutes les questions au risque d'ignorer la question qui se pose aujourd'hui pour ce jeune en particulier. Je suis intervenu l'année dernière à Saint-Malo pour les JMJ. Et j'ai été marqué vraiment par la soif des jeunes d'être écoutés. C'est-à-dire qu'après le topo était samedi en début d'après-midi, et jusqu'au dimanche soir, il y a des jeunes qui viennent vous voir avec vraiment une forte soif d'être écoutés, d'être pour beaucoup rassurés. Est-ce que je suis normal? Est-ce que je suis belle? Cet amour que t'annonces, est-ce que c'est possible pour moi? Des jeunes qui souhaitent être confirmés. Est-ce que je suis sur la bonne route? Notez dans cette soif de confirmation, il peut y avoir deux choses. Il peut y avoir. Et ça fait écho pour moi un peu à la troisième question que vous posiez, faire des choix à contre-courant. Il peut y avoir le côté. Voilà, comment est-ce que j'ai la force, cette vertu de force, pour vivre ma vie dans le bien quand tout m'y encourage pas. Mais il peut y avoir aussi. Le côté légaliste, quoi. Est-ce que je suis dans les clous? Est-ce que mes comportements extérieurs sont bons? Mais surtout, réfléchissons pas sur mon acte intérieur. Ouais, donc, bien entendu, la réaction est différente dans les deux cas, quoi. Ouais, donc, j'espère que ces quelques idées vous animeront notre réflexion pour la suite de la journée. Et puis, la parole est à vous.